RMC, le lundi 21h, 22h, c'est le Tony Parker Show. Pierre Dorian et Tony Parker.
Batum, il shoot à 3 points. Dedans Nicolas Batum.
Oui, mon gamin.
Oui, Nico. Oui, monsieur. On est chez nous.
Allez, les bons. Allez,
les bleus. C'est le feu. C'est la corrida. Batum qui a failli prendre le shoot à 3 points. 3 lancés. Premier raté.
Le fond de cercle.
Avec le deuxième lancé. 0 sur 2. Oh là là.
Il le fait exprès de le manquer pour jouer le rebond.
Arraché de Pogazol et derrière les Espagnols vont courir en contre-attaque. Olé, c'est fini. Boris joue à 3 points. Ouais,
c'est fait.
Oui,
bon,
Boris,
c'est gagné.
Comme un symbole.
Le public debout. Qui célèbre.
Standing ovation. On fait le spectacle. Gobert pour Adek. Badabou.
Avec la passe dans le dos, génial. Et Rudy qui va éclater la marmite.
La France est en bronze.
Avec Nico, on a vécu des moments inoubliables dans nos carrières. Mais franchement, cette compétition, elle était vraiment incroyable. Et ça, c'était grâce à vous. Ça fait chaud au cœur. On vous promet qu'on lâchera pas l'affaire avec l'équipe de France et on reviendra encore plus fort l'année prochaine aux Jeux Olympiques. Merci.
Voilà ce qu'on a vécu donc pendant 15 jours l'Eurobasket 2015. Tony Parker est de retour sur RMC. C'est le Tipeee Show, le premier de l'année. Salut Tipeee.
Ça va?
Ça va et toi? Jacques Monclar est avec nous également. Salut
Pierrot,
Jacques.
Salut Tony.
Ça va Jacques?
Ça va, ça va.
Ça va, tu commences à digérer, c'est bon? T'es passé à autre chose ou t'es encore dans ta compète, Tipeee?
Non, bah là on profite, hein. J'avais des off aujourd'hui, donc on s'est un peu reposé, retrouvé un peu la famille, passé du temps avec mon petit. Parce que bon, bah comme tout le monde, hein, c'était deux semaines avec beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que c'était une compétition assez particulière. Et je suis vraiment content que ce soit terminé avec une bonne note et une belle médaille de bronze. Et utiliser justement cette frustration de l'or comme motivation pour l'année prochaine au JO.
Alors justement, vous finissez sur une médaille de bronze contre la Serbie qui semblait être peut-être l'équipe la plus redoutable dans cet Euro.
La Serbie, c'est une grosse équipe. Hein. De toute façon, la Serbie, enfin, c'est même triste, quoi. C'est pour dire le niveau du championnat d'Europe. La Serbie qui a maîtrisé quand même le groupe de la mort, ils ont terminé premier en battant tout le monde de 20 points et ils ont battu l'Espagne, enfin ils ont battu tout le monde. Et tu termines quatrième avec la médaille au chocolat, t'as rien du tout. Franchement, c'est cruel le sport des fois. Et pareil pour nous, tu te dis que t'es à une minute d'une médaille d'or. Parce que contre l'Espagne, c'était un peu voilà, une sorte de finale avant l'heure. Et c'est vrai que ça fait c'est dur à accepter parce qu'on a mené tout le match et on n'a pas réussi à terminer à la fin.
Après, on t'a entendu là dans l'extrait sonore qu'on vient de diffuser, t'adresses au public de Lille, on te sentait hyper ému. C'est même s'il n'y a pas la victoire au bout, est-ce que ça fait partie de tes plus grosses émotions dans ta carrière?
Bah, j'ai eu de la chance d'avoir une super carrière. Quand tu relativises, j'ai gagné 4 titres NBA. On a perdu une grosse finale en 2013, on a perdu une finale européenne, on a gagné une finale européenne. J'ai vécu beaucoup de choses, mais c'est vrai que jouer un euro à domicile, c'était particulier. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à gérer, que ce soit tes amis, ta famille, tout le public. C'était vraiment un truc énorme. Et en plus, pour moi, c'était encore plus spécial parce que je savais que c'était mon dernier championnat d'Europe. Donc il y avait ça aussi à gérer.
Ça t'en est sûr, tu reviens pas dessus?
Bah pour l'instant non. Pour l'instant, moi je pars, voilà, c'est les JO et je pars comme c'est la dernière compète. Après, tu peux pas fermer de porte. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, je l'ai abordé comme si c'était mon dernier championnat d'Europe.
Alors, il y a beaucoup de réactions et de messages sur justement la ferveur du public et notamment à Lille lors de la phase finale. On a Bat sur Twitter avec le hashtag RMC Live qui te demande qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez dans une salle remplie de supporters français. Je pense que c'est à peu près la même chose. On veut te parler, Richard, au 32-16 dans le Tony Parker Show sur RMC. Salut Richard.
Salut Tipeee, ça va?
Toi, tu es du Nord.
Ouais, je suis de Lille. J'étais dans la salle jeudi soir.
T'es un supporter de basket à la base ou pas forcément?
Ouais, si, supporter. D'accord. Bah, je suis supporter des Knicks, moi. Chaque fois, j'essaie de. Je suis toujours content de parler avec Jacques aussi parce que il y en a pas beaucoup de supporters des Knicks en ce moment.
Dis-nous ce que t'as ressenti alors.
Bah, on est passé par toutes les émotions, hein. On s'est vu beau un peu en troisième quart-temps, on a tous 11, donc il y avait une ambiance pas possible. Et puis on a vu que ça, on commençait un peu petit à petit à perdre le, enfin pas à perdre le match, mais on sentait les Espagnols de plus en plus sereins, Pau Gasol qui montait en puissance, et puis bah on a eu toutes les émotions, hein, je veux dire le 3 points de Nico qui nous fallait en prolongation, et puis après après la fin de match que tout le monde connaît maintenant, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions quand on est sorti, mais bon on était content de l'avoir vécu parce qu'il y avait vraiment 27 000 personnes qui gueulent, ça fait du bruit et c'était hyper impressionnant. Donc c'est vrai que c'était bien sympa quand même sur le papier, même si au final on a quand même perdu, mais ça reste quand même un beau moment de sport.
Jacques, t'avais déjà vécu ça en France dans une salle de basket ?
Non. Et même si c'est, on dit, le public de Villeneuve-d'Ascq, de Lille, du Nord, mais ça venait de partout, beaucoup. Enfin, moi, je marchais un peu sur le parvis, ne serait-ce que pour aller au parking. Mais on était des Beatles, même nous. Donc, je veux dire, il y avait des gens du sud de Bretagne, de l'Est, de Lyon, de partout, quoi, du centre. C'était vraiment extraordinaire, et puis l'organisation était propre pour les joueurs qui sont habitués. Il n'y a qu'un truc, moi. Alors, on va dire que je coupe les cheveux en quatre. Il n'y avait pas de salle d'échauffement. Et pour nos joueurs NBA, à commencer par Tony, Nico, qui ont besoin de régler les bras longtemps avant, il me semble qu'avoir eu une petite salle d'échauffement est valable pour les joueurs NBA des autres équipes. Hein. Mmh. Ils ont des routines bien avant le match, et là, t'as 45 minutes entre les matchs. Alors oui, on dit qu'on va dire que Monclar, il découpe les cheveux en quatre, mais je suis sûr, et je vais poser la question à Tony, parce que je l'ai pas vu du tournoi, Tony. C'est vrai.
Ça t'a manqué, ça, ou pas, Tipeee?
Il m'a manqué, Jacques.
Non, mais Jacques, je doute pas qu'il t'a manqué. Mais la salle d'échauffement.
Non, c'est vrai ce que Jacques dit, ça n'a rien à voir avec la NBA.
Les
c'est
routines.
Vrai que les routines, bah, il n'y en a pas, tu vois, sur l'Euro. Et c'est vrai que, bah, de toute façon, moi, je me suis senti un peu comme ça, de toute façon, sur tout l'Euro. Hein. J'ai jamais eu vraiment de rythme, parce qu'on était dans un groupe abordable. Donc, j'ai pas joué beaucoup, tu vois, au premier tour. Donc j'ai jamais eu vraiment besoin de tirer sur la machine ou vraiment jouer les actions. Et en huitième, on gagne facilement aussi. Donc après, en quart de finale, c'est là où c'est le premier match où je joue vraiment et que ça compte. Et c'est, voilà, j'ai l'impression que j'étais sur un faux rythme tout l'Euro. J'aurais presque même préféré d'être dans le groupe de la mort, parce qu'au moins j'aurais joué 35 minutes par match comme Pau Gasol, et tu trouves un rythme et le basket, même si t'es talentueux, c'est un jeu de rythme. Je vais pas l'apprendre à Jacques, hein. Je voyais tous les commentaires de Laurent Sierra, Laurent Suarez, Yann qui disaient ouais Tony il est pas en rythme, mais c'est exactement ça, hein. J'ai jamais eu vraiment l'impression, parce que voilà, je jouais pas beaucoup, quoi.
Et puis il y avait le baromètre, Tony, ton baromètre c'est le flotteur, ouais. C'est ton shoot c'est le shoot qui te rassure, il montre que tu bats l'adversaire, c'est le shoot qui permet de pénétrer pour servir tes partenaires, et c'est le shoot qui fait mal à la tête de l'adversaire. Donc,
exactement.
À partir du moment où le flotteur est pas là, c'est compliqué. Et ça, alors, c'est facile après, hein. Je n'ai pas du tout parlé non plus avec Vincent. Mmh. Donc, vous savez que j'étais pas le plus grand fan de votre prépa et des changements. Ça, je l'ai dit avant. Je me demande, vu la poule qu'on avait, qui était trop facile, s'il n'y aurait pas mieux fallu que tu joues un match à bloc, quitte à pas jouer le suivant, et rejouer le suivant. Parce qu'on avait
C'est clair, hein. C'est clair,
parce que jouer 24, 25, ce qui était l'objectif affiché par Vincent.
Ouais, mais tu joues 20 minutes, mais c'est des faux 20 minutes. C'est des faux 20 minutes parce qu'on est à plus 20 et c'est des fausses minutes. Et c'est le seul truc que je me dis, on aurait peut-être pas dû faire ça parce que, de toute façon, j'étais en forme, j'avais pas joué depuis le mois de mai contre les Clippers. J'aurais pu largement tenir un mois et demi, quoi. Toute la préparation, tous les matchs, j'ai pas joué le quatrième quart-temps, tu vois, et après voilà, je veux pas, tu sais, chercher des excuses, hein, j'assume, hein, j'ai pas été bon, mais après, quand tu commences à réfléchir à ce qui s'est passé, je me dis bon bah j'étais pas en rythme, est-ce que je me suis mis trop de pression parce qu'on était à domicile, mais bon, la pression, ça fait 15 ans que je l'ai en équipe de France, donc c'est peut-être pas ça non plus.
Et dans le cheminement contre l'Espagne, on a perdu, beaucoup de gens ont dit on perd comme à Londres. Bon, sur le cheminement du score, je suis d'accord. Sur le cheminement technique et tactique, je suis pas d'accord. Autant à Londres, on avait dominé tactiquement, techniquement le match, autant là on a fonctionné en coup de boutoir. Et j'en parlais avec mon Pierrot là, au grand nez. avant le match,
tu connais toujours rien au basket, hein,
ouais, en 10 ans, ça le ressenti, hein. Même à plus 11, notre auditeur en parlait là. ça Richard. Correspondait à des coups de boutoir, ça correspondait pas à une méthode et on subissait leur méthode. Après, Jacques, sur chaque attaque.
Tu sais Jacques, les décisions de coach, moi tu sais très bien que quand t'es quand... Non mais tu sais, mais je dis juste, quand t'es un joueur, tu respectes, voilà, ce que le coach il a décidé. Et voilà, on avait confiance en Rudy. Rudy, il voulait le jouer en 1 contre 1. Et voilà, après tu fais confiance à ton équipe. Et le problème, c'est que on était devant. On est devant
tout le match.
Mais
c'est pas ça dont je parle. C'est pas ça dont je parle. Dans le cheminement tactique qu'on avait eu à Londres, on les dominait dans l'approche du match. On les avait dominés dans le plan de jeu.
Là, qu'on était dominé malgré le score, en fait.
Bien qu'on menait. Et j'étais pas rassuré parce que.
On était pas serein.
Parce que il y avait ils étaient eux sereins en foutant la balle sur Pau Gasol et ça déclinait autour. Sergio Rodriguez et Lioul, c'est une ligne arrière de niveau mondial, tout le monde le sait. Punaise, j'avais pas le même sentiment qu'à Londres où on a eu plus d'essence. Là, tout s'est arrêté, mais on fonctionnait tellement sur l'énergie, sur la force de cette équipe, la force athlétique, et c'est pas une critique de Vincent. Ouais, l'histoire de la trappe, ok, comme j'ai dit, il a pris la décision de pas faire trappe, c'est une décision. Après, bonne, mauvaise, bon, et quand tu perds, elle est jamais bonne. Hein. Voilà, bon,
mais c'est pour ça que moi j'aime pas ça, c'est des débats. Après, ça avec des si, avec des si, tu peux refaire tout le match. Hein. Moi, comment je vois le match, Jacques, c'est qu'on est devant tout le match. Et après, bah, petit à petit, ils reviennent, et on n'a pas réussi à faire les stops qu'il fallait à la fin pour gagner le match. Parce qu'en prolongation, on est à plus 3 à 1 minute 20, et on n'a pas fait les stops qu'il fallait pour gagner le match, c'est tout. Après, tu peux parler de stratégie, tu peux parler de tir loupé, lancer franc, tout ça, mais c'est pas là où on perd le match. À la fin, quand t'es à plus 3 et 1 minute 20, il faut stopper l'adversaire, hein, c'est tout.
Bon, Richard, tu nous emmenais loin avec ta question au départ sur le public, mais c'est bien, hein, au moins on a refait le match contre l'Espagne.
J'avais une question pour Tony quand même, tu l'as un peu évoqué, Pierrot. C'est Tony, quand il voit Pau Gasol qui est stratosphérique et qui est monstrueux, ok, c'est pas le même poste, on est d'accord, ça lui donne pas envie quand même de se dire, putain, à 35 ans, il y a encore moyen de faire des trucs assez sympas et éventuellement de refaire un euro.
Ça, c'est comme on a tous envie qu'il continue, on réfléchit à sa place, en fait. Tony, qu'est-ce que tu peux dire à Richard là-dessus ?
Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je me ferme pas de porte. Moi, j'ai toujours dit que je voulais arrêter après Rio. Après, on verra. De toute façon, c'est une carrière, tu prends des décisions, mais je dis pas qu'on peut pas changer d'avis. Hein.
Tu choisis pas toujours tout non plus.
On sait aussi
que les gens qui sont cons, qui changent pas d'avis.
Puis comme on va avoir les Jeux de 2024, ça va repousser encore.
Là, quand même. Mais en plus, il y a un paramètre, et Tony le sait, c'est que c'est beaucoup plus difficile de vieillir en étant au très haut niveau meneur que intérieur.
Ah oui, ça c'est un fait, ça c'est statistique. Oui,
Richard, on te remercie pour ta question.
Bah, t'es bien placé pour savoir.
Mais moi, j'ai pas vieilli, moi. J'ai pas vieilli, moi. J'ai arrêté à 32, donc j'ai pas vieilli.
Alors, t'as parlé de ton manque de rythme. T'avais déjà parlé aussi de cette pression que tu t'es mise sur cette compétition. Maintenant, il y a l'aspect physique. Antoine Rigaudeau disait la semaine dernière, je le sens fatigué. Est-ce que ta préparation physique n'a pas été trop costaud ?
Non, la préparation physique, ça, j'étais bien. Et c'est pour ça, parce que j'étais bien, je pense que j'aurais dû jouer tous les matchs de préparation comme d'habitude, je pense que j'aurais tenu et j'aurais eu un
si on te mettait en gros ce que tu dis, parce que je comprends, c'est si on te mettait en tenue, tu jouais normalement, sinon il valait mieux te sortir de l'équipe en prépa et que tu le fasses pas.
Je pense qu'on aurait dû faire ça, et comme tu as dit, Jacques. Je pense que c'était ça, tu vois. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé avec Vincent, hein, parce qu'on jouait la Russie.
J'imagine, Vincent est un formidable technicien qui envisage tout après.
Et la Russie, tu sais, on savait que c'était un match qui comptait pas. Donc on se dit, est-ce qu'on te repose maintenant et après tu joues à fond l'Israël? Et du coup, j'ai fait 20 contre la Russie et 20 contre l'Israël, mais des fausses minutes, comme je t'ai expliqué, parce que les deux matchs, on les a gagnés. Je sais pas si c'était mieux, mais bon, de toute façon, comme je t'ai dit toujours avec Desi après.
Ouais, puis il y a aussi, je me souviens quand vous avez été éliminé avec les Spurs.
Je pense qu'on a trop réfléchi en fait. On a trop réfléchi par rapport à, tu sais, ma condition physique et mon âge. Mais j'ai arrêté au début mai, quoi. Donc j'étais grave en forme. Et moi, c'est le seul regret que j'ai, quoi. C'est que j'aurais dû jouer comme d'habitude. d'habitude et j'aurais été plus en rythme, je pense.
Ceci dit, quand tu vois comment a fini Teodosic, punaise, le pauvre, il a fini en ambulance. Hein,
Mais parce que ça, c'était notre grosse défense aussi, ça n'a rien à voir.
C'est le retour du Tony Parker Show sur RMC.
Serbie,
on est au lendemain de, eh bien, tout simplement du championnat d'Europe et Tony est là. On refait cette demi-finale face à l'Espagne. Il y a encore plein de questions à te poser. Tiens, juste une petite comme ça rapide sur Twitter. L'équipe de France de basket pourrait-elle battre une équipe NBA, te demande Armand avec le hashtag RMC Live.
Est-ce que l'équipe de France peut battre une équipe NBA?
Ouais.
Sur quelle règle?
C'est quoi, je comprends pas la question.
Je sais pas, dans l'absolu.
Les
quoi,
Sixers,
c'est pour,
par exemple. Oui, bien sûr. Enfin, moi, il me semble.
De toute façon, la moitié de l'équipe, on est tous en NBA.
Donc la question se pose pas.
Oui.
Voilà pour la réponse d'Armand. Il y a plein de questions encore qui sont arrivées. On y revient tout de suite. D'abord, la Ligue 2 avec Valenciennes-Lens. Jean Baumel, ça en est où?
Dans le derby du nord de la Ligue 2 avec pour l'instant Lens qui mène 1-0, but de Pablo Chavarria à la 23e, deux occasions, un but pour l'équipe de Lens qui avant ce match était avant-dernier de ce championnat de Ligue 2.
Allez, le Tipeee Show revient tout de suite sur RMC, Tony Parker est de retour.
RMC, 21h, 22h.
6 seconds to go.
Tony Parker Show.
Tony Parker with a goal.
Pierre Dorian et Tony Parker.
Avec Jacques Monclar, on est en direct sur RMC avec Tony Parker au lendemain de l'Eurobasket 2015 et avec Tipeee, et ben voilà, hein, on est à cœur ouvert, on se dit tout et on refait cet euro qui se finit sur une bonne note avec cette médaille de bronze mais qui nous laisse aussi un goût amer dans la bouche parce qu'on voulait tous la médaille d'or. D'ailleurs, on se posait la question pour présenter ce premier Tipeee Show, est-ce qu'on a le droit d'être déçu avec cette médaille de bronze? Vous pouvez bien sûr intervenir au 3216 ou sur Twitter. Qu'est-ce que t'en penses Tipeee, parce que c'est vrai que si on regarde quelques années en arrière, une médaille de bronze à l'euro, c'est précieux quand même.
Parce que quand tu regardes l'histoire du basket français, on n'a pas beaucoup de médailles quand même dans le basket français. Donc tu peux pas être déçu avec une médaille de bronze. C'est génial. Quand nous on a commencé il y a 10 ans, enfin en 2005, notre première médaille de bronze, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu de médaille dans un championnat d'Europe pour le basket français. Donc il faut quand même, après, quand tu relativises, il faut remettre les choses à sa place. Je pense que c'est grâce quand même à notre génération qu'on a quand même commencé un championnat d'Europe avec le statut de favori. C'était jamais arrivé avant, donc faut pas oublier tout ce qu'on a réussi à accomplir avec cette équipe de France, tous les sacrifices qu'on a fait. Enfin, tout le monde, c'est des gros sacrifices de venir en équipe de France quand nos clubs NBA veulent pas trop qu'on vienne, nos enfants, nos familles, c'est quand même beaucoup de sacrifices et c'est génial de jouer pour l'équipe de France et de revenir été après été et d'aller chercher cette médaille de bronze, elle est quand même belle. Après, bien sûr qu'on est un peu déçu parce qu'on voulait l'or, mais tu peux pas cracher sur cette médaille de bronze.
Alors il y a plein de messages de félicitations, de réconfort. Je vous en lis quelques-uns. Petit Prince du Parc sur Twitter, juste un truc à dire à Tony et aux autres bleus, merci les mecs pour tout depuis 10 ans. L'aventure n'est pas finie. C'est vrai que tout le monde maintenant espère voir cette équipe de France aux Jeux Olympiques. On rappelle qu'il va falloir passer par un tournoi de qualification, qui est pas cadeau, comme tu dis.
Ouais. Alors, vite fait, depuis 5 compétitions internationales, hormis aux Jeux, on est toujours monté sur le podium. Et ça, Tony a raison de le dire, leur génération croisée, là, les 82-3, les 87-8-9 et les 92 maintenant, ils ont ramené ça au basket français d'une permanence et d'une constance au haut niveau. C'est la 5e médaille de bronze sur un euro. Il y a eu une médaille d'argent et il y a eu une médaille d'or. Donc, on a que 7 médailles dans l'histoire du championnat d'Europe qui date de 1937. Donc, c'est plutôt très bien. Après, le TQO, c'est tout simple. Il y a 18 équipes déjà qui vont être qualifiées. Il y a la Turquie qui va probablement organiser un tournoi
à éviter pour la France.
De toute façon, on est le premier, filles et garçons d'ailleurs, c'est un moment de rappeler ça. On est le premier couillon des Jeux Olympiques. Pour moi, je vais te dire très franchement. Alors, Tony, il va hurler parce que. Mais moi, ce qui m'a foutu le coup de bambou, c'est pas. Ouais, on aurait été en finale, gagnant, perdant, une finale, ma foi. Des gens disent, les finales, ça se gagne. Les finales, d'abord, ça se joue. Et elle t'envoyait à Rio, celle-là. Et ça, c'était.
Mais c'était le double coup dur, quoi.
Ouais, parce qu'il va falloir après régler les problèmes de la longueur de la saison NBA. Ça va être entre le 5 et le 12 juillet. Donc, s'il y a des mecs qui vont au bout, ça va être short.
T'es sûr d'y être, toi, Tipeee, déjà, pour commencer, si, admettons que vous soyez en finale avec les Spurs?
Non, moi je viens au TQO quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive, je vais pas participer.
Après, il y a le
problème que Jacques
il
parle là, c'est ceux qui sont en fin de contrat. Et ça commence le 1er juillet. Tu peux pas signer ton contrat officiellement avant le 7 ou le 8 juillet. Ça veut dire que Nicolas Batum, Evan Fournier et Rudy Gobert, ça va être très 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 difficile de les avoir.
Je pense que Rudy, ce sera quand même réglé assez vite.
Rudy Gobert, c'est réglé vite, il peut pas signer officiellement avant le 8 juillet.
D'accord, donc pas jouer.
Rudy Gobert est dans le Tipeee Show en direct. Salut Rudy.
Salut les gars.
Salut Rudy.
Gobi
Gobzilla.
Gobi.
Ça va Rudy?
Ouais, toi?
Vous avez passé une bonne soirée hier soir?
Ouais, ça va.
Bon, alors toi qui viens juste d'arriver avec nous, comment tu te ressens justement après cette médaille de bronze? C'est clair que l'or c'était l'objectif. Est-ce que tu es toujours aussi motivé pour continuer l'aventure en équipe de France?
Bien sûr. Comme je dis, plus que jamais, ok, cette médaille de bronze était importante pour nous, importante pour le public et aussi pour montrer que voilà, cette équipe a quand même une bonne âme et qu'on sera prêt au combat l'année prochaine. Après, on reconnaissait tout notre objectif et surtout perdre contre l'Espagne chez nous, ça, c'est une blessure qui est très profonde.
Et je sais que toi, t'étais voilà, très très motivé. Et je sais que le match de l'Espagne, tu vas t'en servir pour ta saison NBA et pour les prochaines aventures avec l'équipe de France.
Bien sûr. Comme je dis, j'y pense encore tous les jours au match. Et je pense que je vais y penser tous les jours pendant un très long moment. Et ça motive. Voilà, faut se servir des défaites comme des victoires. Et parfois, les grosses défaites, c'est ce qui te fait le plus à progresser et franchir des paliers.
Et justement, là, ta motivation va être grande. Tu as beaucoup progressé l'année dernière avec Utah. C'est quoi tes objectifs par rapport à l'année prochaine? Vous pouvez faire une grande saison avec Utah. Et toi, personnellement, tu as envie d'en arriver où?
Cette année, c'est vraiment les playoffs. C'est vraiment gagner. Et bien sûr, individuellement, continuer à progresser, franchir des paliers dans mon jeu et surtout offensivement. Essayer de devenir vraiment un leader offensif.
Et par rapport à ton contrat, de toute façon, il n'y aura pas de problème avec Utah, ça se passe bien. Tu veux rester là-bas, toi?
Moi, je veux rester là-bas.
Écoute-le, il se renseigne. Il se renseigne.
Je me renseigne si on peut l'avoir aux Spurs, mais bon, je sais que Utah, ils vont pas le laisser partir.
franchement, moi, je suis bien là-bas et j'aime bien le projet. Après, bien sûr, bon, on sait tous comment ça marche la nuit, mais déjà, je pense pas que Utah laisse partir et je suis bien là-bas. Et je pense que notre avenir est je dirais radieux même.
Tu es restricted free agent, hein, c'est ça? Ou tu es free agent total?
Oh, si ils veulent pas que je parte,
voilà, restricted. C'est-à-dire, voilà,
ils peuvent. Utah peut avoir le pouvoir de garder Rudy.
Une équipe lui donne 10 euros. Si Utah donne 10 ou 10 et demi,
il est obligé de rester à Utah. Ouais.
Voilà. Rudy Gobert dans le Tony Parker Show. Tiens, Tipeee, juste quand je t'entends discuter avec Rudy, je trouve très bienveillant. C'est normal, c'est la jeune génération. Il y a un écart entre vous. Est-ce qu'à l'inverse, toi, pendant la compétition, t'as reçu le soutien aussi des autres joueurs de l'équipe quand peut-être
il y avait une super bonne ambiance dans l'équipe et franchement les trois générations on s'entendait super bien et je l'ai dit de toute façon à Rudy, moi c'était vraiment un honneur et un grand plaisir de jouer avec lui, de jouer avec Geoffrey, de jouer avec Evan. Ils ont une super mentalité et l'avenir du basket français il est en bonne main. Et moi j'ai à chaque fois je parlais avec Rudy, je lui disais je sais que son objectif c'est de devenir un des meilleurs pivots de l'histoire du basket français et mondial, et il en a les possibilités. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Hein.
Bon, il nous faudrait 2 heures aujourd'hui parce que le temps file très très vite ce soir. Il est déjà 21h28. On est avec Rudy Gobert. On va accueillir également Nicolas Batum, Vincent Collet, Geoffrey Lauvergne, Evan Fournier. Donc il faut se dépêcher. On remercie Jérémy aussi qui nous attendait au 32-16. Vous êtes les bienvenus, ne vous inquiétez pas. On va relayer vos messages et vos questions à Tony Parker. Merci beaucoup, Rudy.
Merci à vous.
Merci Gobi, bonne soirée gars, à bientôt.
Bonne soirée les gars.
Ciao.
Et le Tipeee Show continue avec l'équipe de France pour cette grande première. C'est le retour du Tony Parker Show sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. Parker again. Pierre Dorian et Tony Parker.
Et on est avec Jacques Monclar jusqu'à 22h, comme chaque lundi soir, 21h-22h. C'est le retour du Tipeee Show cette saison encore. La saison de NBA va démarrer dans quoi, un gros mois en gros. Hein.
Ouais, ils vont faire les Global Games. En fait, Tony, vous, des Global Games, vous partez à l'étranger avec les Spurs?
Non, on reste à San Antonio.
Il y a Boston qui va tourner. Moi, que je vais aller voir à Milan et à Madrid.
Mais voilà. Ce soir, c'est l'équipe de France dont il est question dans le Tipeee Show. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus au 32-16 et sur Twitter avec le hashtag RMC Live. L'équipe de France est donc sur RMC. On est avec Nicolas Batum. Salut Nico.
Salut.
Salut Nico.
Ça va?
Oui.
Nico, il fait les plateaux de télé, Nico. Tu sais ça,
je viens de voir notre tweet là. On a un truc équipe de France et je viens de voir sa photo avec Gobi là.
Ouais, ils ont été, tu sais quoi, j'ai regardé, ils ont été
beau gosse. Et bon, Gobi, hein. il a fait un effort.
Oui, il a fait essayer de mettre la chemise et le blazer. Ouais, il a essayé de faire un effort. Ouais.
Il avait... Je suis mort de rire. Je viens juste de voir la photo.
Non, surtout ce qu'il m'a fait dans l'après-midi. Pour me dire comment on s'habille ce soir. Donc, je suis décontracté, je suis OK, et je vais vous arriver en blazer chemise.
il a voulu te mettre une carotte.
Exactement, ce que je lui ai dit, ouais.
C'est vrai que toi, t'étais en chemise en jean dégueulasse, et c'était pas
sérieux. Moi, j'étais pas prêt.
Comment s'est passé alors ce plateau télé, ça va?
Bien. On a essayé de bien réagir par rapport aux deux dernières semaines. Donc, non, ça s'est bien passé.
C'est vrai que on a vécu des émotions de malade. Je sais, toi et moi, on est vachement proches et on sait qu'on prend les choses à cœur. C'est avec le recul maintenant, c'est quoi le premier sentiment que tu ressens sur cette compète, quoi?
Je suis dégoûté.
Voilà, c'est clair.
Surtout la tournure d'image d'hier. Enfin, j'ai pas regardé le match, j'ai juste vu le score. On m'a un peu expliqué comment ça s'est passé, donc j'étais encore plus dégoûté parce que c'était clairement à notre portée. Tu vois, c'était pour nous.
Ça s'est passé comme à Ljubljana quand vous les avez éclatés, la même.
Exactement. Exactement.
Ouais. On parle de
la finale, bien sûr, Espagne-Lituanie.
C'est 2013.
Et Nico, qu'est-ce qui se passe dans ta tronche quand tu rates le premier lancé?
Ça s'appelle le Tipeee Show. Ça s'appelle le Tipeee Show. Et je veux pas parler de ça parce que c'est pas à cause de ça qu'on a perdu le match. Je veux pas en parler. Non, Jacques.
Après, c'est pas parce qu'il pose la question que ça veut dire qu'il pense que c'est à cause de ça qu'on a perdu.
Non, mais moi, je sais ce que c'est que d'être sur une ligne de lancer. Mais dire aux gens, quoi. Nico, il est capable surtout au lancer. C'est avec Nando peut-être un des shooters les plus fiables de l'équipe au lancer. Et à ce moment-là, il n'y a plus de comment dire, tu peux être le meilleur shooter du monde, même Jordan aurait pu en rater un, je sais pas si on a raté un.
Quand j'avais sur la ligne pour le premier, pour moi j'étais décontracté, comme les 6 premiers auparavant que je mets, de toute façon en plus j'en mets 2 une minute avant.
On t'en rate pas du match. Donc,
Et donc quand je vais sur la ligne, je suis sur le premier, mais je crois que je me suis trop décontracté sur le premier en fait. J'étais trop cool le premier, donc du coup en loupant le premier, j'étais tellement étonné d'avoir loupé. J'ai un peu choqué que je me suis pas concentré du tout sur le deuxième et là j'ai vraiment bien loupé le deuxième par contre.
Nico Batum dans le Tipeee Show. Nico, avant d'accueillir Jérémy qui veut te poser une question, juste question importante pour tous les fans de l'équipe de France. Est-ce que tu penses que tu seras au tournoi de qualification olympique? Est-ce que aujourd'hui tu peux en avoir la certitude ou pas?
Oui, après c'est une période assez galère parce que moi je suis en pleine free agency. Mais j'ai tout mettre en place pour y être, ça c'est sûr.
D'accord. Un free agency, c'est ce qu'on expliquait avec Rudy, c'est-à-dire que tu arrives en fin de contrat, donc tu vas avoir des négociations pour ton futur contrat NBA. Est-ce que tu souhaites avoir réglé ta situation avant le tournoi justement olympique, de qualif olympique?
Avant, ça ne sera pas possible.
Ah ouais.
C'est impossible. Car c'est impossible, je crois que le free agency commence le 1er juillet, et je crois que la signature de contrat, c'est à partir du 10 ou du 11.
Okay.
Donc avant, c'est clairement impossible.
Ok, mais quoi qu'il arrive, tu feras en sorte d'être là au TQO. Ça doit, c'est des bonnes choses à entendre, ça, quand même, Tipeee. T'étais avec Rudy il y a un instant, ultra motivé. Quand t'entends Nico dire « je m'arrangerai de toute façon pour être là », c'est bon à entendre tout ça.
Non, mais c'est sûr. Mais on est tous motivés pour aller chercher cette médaille olympique. Nico, on a eu l'expérience d'être à Londres et c'était incroyable, les JO. On sait que c'est une super expérience dans une carrière de sportif. Et Rudy, il sait, il a envie d'y aller. Et donc, c'est vrai que c'est, pour moi, c'est super... d'entendre leur motivation, parce que je pense vraiment qu'on peut le faire, quoi. On va pas aller au JO pour pas ramener une médaille, donc c'est vrai que c'est motivant.
Nico Batum dans le Tipeee Show. Jérémy veut te poser une question, Nico. Salut Jérémy.
Salut à tous.
Bonjour.
Oui, donc salut, je voulais voir avec Nico si se sentait d'ici après 2016, en espérant bien sûr qu'on aille au JO, mais on va y aller, de prendre le relais de Tipeee, parce qu'il va nous falloir des leaders dans cette équipe. Est-ce qu'il se sent l'âme d'un leader, ou plutôt laisser ce côté-là à Nando, peut-être qu'il aura lui aussi pris un peu plus d'expérience, ou même à Rudy. Mais est-ce que tu te sens prendre le relais de Tony?
Et c'est la question que tout le monde me pose depuis 2 ans, et que je réponds à chaque fois. Le truc, c'est qu'Anthony Parker...
Vous n'avez pas encore vu la réponse, non, ça fait deux ans.
Ça fait 2 ans que j'y réponds, et 2 ans que... Bref. Reprends le flambeau de Tony, ça, c'est techniquement impossible. Parce que personne ne peut le faire à sortir en France. Et on a tellement une génération qui arrive derrière, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui peuvent jouer. On n'a pas forcément besoin d'un mec pour remplacer Tony. On est 12 mecs qui peuvent le faire.
Ah oui, non, mais bien sûr. C'est le côté du leadership que je veux dire.
L'année dernière, on se met médaille de bronze.
Voilà, tout à fait.
Ouais. J'ai répondu à ta question.
Ouais, très bien.
Voilà, Jérémy. Voilà,
moi, je pense pour aider justement Nico à répondre à cette question, c'est toujours de toute façon difficile de comparer, tu sais, les générations et les joueurs et de ça. Et ça revient à ce que j'ai dit avant à toi, Jacques, que à l'époque, en équipe de France, on gagnait pas de médaille. En 2005, ça faisait 50 ans la médaille de bronze. Et là, maintenant, on fait 4 médailles en 5 ans.
Ouais.
Et l'année dernière, Nico, il a été formidable et ils ont gagné une médaille de bronze. Et je pense que maintenant, l'équipe de France, on est arrivé à un niveau où on peut essayer de gagner des médailles à chaque compétition. Et c'était pas le cas quand moi j'ai commencé en équipe de France, en tout cas.
Et en plus, pour l'histoire du leadership, pour Jérémy, d'abord, Tony, humainement, de par son poste, c'est un cas particulier quand même. Hein. Puis comme l'a dit Nico à l'antenne tout à l'heure, je l'ai entendu dire, un des plus grands sportifs français de l'histoire du sport français, le meilleur basketteur de tous les temps. Voilà, ça se remplace pas comme ça. Il y aura sans doute un nouveau coach. Un nouveau staff qui va choisir des hommes, des relais. Mmh. Il y aura toujours bien sûr la base avec Antoine Diot qui a beaucoup manqué sur cet euro. Nando De Colo, Nico Batum. Boris s'est pas prononcé non plus sur la suite.
Boris, il va jouer jusqu'à la mort. Il faudra qu'on le dégage de l'équipe de France. Lui.
Je crois que je vais prendre ma retraite avant Boris.
Grave.
Voilà. Et puis les gamins, Evan, tout ça... ça arrive fort avec Joe Lauvergne.
Jérémy, on va t'offrir la biographie de Michael Jordan. Michael Jordan, The Life, aux éditions Talent Sport. Tu sauras tout de Michael Jordan, si c'est pas déjà le cas, en tout cas.
Ouais.
Voilà, ne raccroche pas, on va prendre tes coordonnées hors antenne.
Bravo quand même à Tony et Nico, hein, parce qu'une médaille de bronze, c'est quand même pas rien. Merci.
Tiens les gars, juste avant d'accueillir le coach et Geoffrey Lauvergne et Evan Fournier, Charles Cahudi est en direct dans le Tipeee Show.
Bonsoir à tous.
Salut Charles.
Ça va ?
Charles, mais t'es pas au lit là ? On a un match, les gars.
C'est le boss qui parle.
Ouais, c'est Charles joue à l'Asvel.
C'est de la chance, j'ai un petit break.
Moi j'ai une question pour toi Charles, parce que c'est vrai que tu as été très performant contre la Serbie. Comment tu t'es senti justement après le match de l'Espagne? Je suis sûr que tu pensais que tu pouvais nous aider, et après bon, il y a les choix de coach. Tu as amené grave de l'énergie. Comment tu t'es concentré justement pour ce match-là, pour nous aider à aller chercher ce bronze?
Bah, un peu comme tout le monde, après l'Espagne, j'étais fortement déçu, et un petit peu plus parce que j'ai pas pu aider l'équipe, tu vois. Donc forcément, j'en ai parlé un petit peu quand le coach en a parlé en petite réunion, et après moi j'en ai parlé un peu avec mes proches aussi. C'est de me remobiliser au maximum, sachant que j'ai peut-être devoir apporter sur une courte séquence ou je savais pas trop, mais tenir prêt en tout cas. Et mon but c'était vraiment que de faire péter un Kabaté Odosic, et on a de la chance qu'il a très bien marché.
Ah, c'est ce que t'as fait, de toute façon, il est parti à l'hôpital.
Charles Cahudi dans le Tipeee Show. Charles, dis-moi, t'as été de toutes les campagnes qui ont ramené des médailles depuis 2011. Elle a quelle saveur celle-là, cette médaille de bronze à l'Euro en France?
Je dirais quand même un peu mitigé. Franchement, je suis très heureux, et c'est une médaille et c'est pas rien. Mais on avait vraiment, franchement, l'équipe pour aller chercher mieux, chercher la plus belle des médailles. Mais bon, on crache pas dessus. Hein. C'est comme pas mal d'années qu'on a quand même des médailles chaque été. Et ça, c'est fort. Donc maintenant, il faut aller chercher ces JO, c'est plus important.
Ça, c'est clair. Bah, merci Charles, merci d'avoir pris du temps. Repose-toi. On a un match de Coupe de France, là, le 23. Là.
Allez, au dodo.
Tony, vous avez des infos, vous, sur le tirage au sort du TQO, la manière dont ça va
non,
se passer?
Non, pas du tout. C'est là, Jacques. Enfin, ça... j'ai pas envie de me mettre dans les problèmes avec la FIBA.
Mais, non, mais il faut dire les choses.
Mais ils si savent veux, même pas. Il y a même pas de chapeau. Ils savent même pas comment ça va se passer. Si c'est un tirage.
On sait pas s'il y a des têtes de série, par exemple.
Tu peux pas mettre quatre équipes européennes dans le même groupe, quoi. C'est impossible.
Et plus la Turquie qui va organiser.
Et une médaille de bronze, normalement, ça doit aller au JO, ça. Enfin, dans le continent européen, c'est super dur de se qualifier à chaque fois. Je chambre Patty Mills, parce que lui, il a juste à battre la Nouvelle-Zélande et il est au JO.
Il est australien, lui. Hein.
Ouais, qu'il est australien, ouais.
Bah, la Nouvelle-Zélande,
match aller-retour contre la Nouvelle-Zélande et tu vas au JO. Ça va, hein, pour se qualifier.
Ouais, c'est bon. Mais des fois, c'est la Nouvelle-Zélande qui y va.
Hein. Les Tall Blacks. Bon, merci à Charles et merci à Nico Batum.
Ah, de rien, merci.
Merci Nico, à
Charles
bientôt.
Merci parce qu'après nous on se fait engueuler par le patron. Hein. Allez, dans un instant, on sera avec Geoffrey Lauvergue et Evan Fournier. On va retourner quelques instants à Valenciennes pour la Ligue 2 avec Valenciennes, Lens, que suis Jean Baumel. Djibo, s'en est où?
56 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le Racing Club de Lens ici à Valenciennes. But de Chavaria à la 23e. Grosse ambiance. Hein. Il y a quand même pas loin de 17 000 spectateurs entre forcément que des Nordistes, des Lensois d'un côté et des Valenciennois pour encourager leur formation. Donc pour l'instant, peut-être que Lens va gagner son premier match de la saison, mais il reste encore une grosse demi-heure à jouer.
Allez, le Tipeee revient sur RMC, Evan Fournier, Geoffrey Lauvergue, Tony Parker et Jacques Monclar. À tout de suite.
RMC, le lundi 21h, 22h, c'est le Tony Parker Show. Pierre Dorian et Tony Parker.
Allez, avec Jacques Monclar, il nous reste 10 petites minutes et on a envie de profiter de la présence des joueurs de l'équipe de France. On va accueillir Geoffrey Lauvergue et Evan Fournier. D'abord, quelques questions sur Twitter pour Tipeee. Tiens, on a Lucille qui te parle d'Antoine Diot qui te demande, est-ce que tu penses que vous auriez eu l'or si Antoine ne s'était pas blessé? Alors, c'est toujours difficile de refaire les choses après coup, mais ça a été un coup dur quand même. Hein.
Ouais, c'est un gros coup dur. Et il nous a manqué dans la compétition, ça c'est sûr. Antoine, c'est un joueur important de l'équipe de France. Il a été très important quand on a gagné la médaille d'or. Et donc, c'est vrai que ouais, il nous a manqué. Après, est-ce que ça aurait fait la différence? Comme je dis, hein, on peut pas savoir, mais ça va être bien de le récupérer l'année prochaine pour essayer de se qualifier pour les JO.
Il était touché, lui. Hein, on l'a senti vraiment très affecté, quoi. Hein.
Ah, c'est horrible. C'est horrible de se blesser 3 jours avant la compète. C'est horrible.
Et toi d'ailleurs, à l'inverse, même si t'as pas connu la mésaventure d'Antoine, c'est vrai qu'on t'a jamais connu dans cette posture-là, Tony, c'est-à-dire en souffrance dans une compète avec l'équipe de France. Pour toi, ça n'a pas dû être évident non plus de passer par cet euro, non? Bah, de ce point de vue-là.
Ça fait 15 ans que je suis en équipe de France et, voilà, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver.
Non, mais que ça a pu arriver, c'est sûr. Mais toi, comment tu l'as vécu? Ça a été très difficile pour toi?
Bah, déjà, enfin, c'est. Moi, j'ai que vraiment ressenti la douleur le jour où on a perdu l'Espagne. Parce que moi, avant ça, voilà, mes coéquipiers jouaient bien. Je disais qu'il fallait être patient, tout ça. Mais c'est vrai qu'après, quand on a perdu contre l'Espagne, là, c'était dur. Le lendemain, de savoir que ton rêve de gagner l'or en France ne pourra pas arriver, c'est vrai que là, c'était dur. Parce que après la pertinence personnelle, moi je n'ai jamais joué pour ça. Moi j'ai toujours joué pour gagner des titres et c'est vrai que bon après c'était beaucoup d'émotions cette compète parce que tu termines enfin meilleur marqueur de l'histoire de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro de l'histoire. Tu sais que c'est ton dernier Euro donc il y avait tellement d'émotions. Mais pour moi tant qu'on gagnait, je m'en foutais entre guillemets. Et c'est vrai qu'après quand on a perdu l'Espagne, c'est là où c'était dur.
Tu t'es senti coupable ou pas?
Non, pas du tout, parce que c'est un sport d'équipe. Il y a pas que moi. Hein. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un gros rôle dans cette équipe et j'ai pas été bon sur ce match-là. Après, il faut relativiser. Je vais pas juger ma carrière sur un match sur les 15 ans que j'ai fait en équipe de France. Quoi.
Allez, on va finir avec la jeune génération. On va finir en beauté. Geoffrey Lauvergue, Evan Fournier. C'est Geoffrey qui nous rejoint le premier dans le Tipeee Show.
Bonsoir.
Salut Geoffrey.
Tio Lolo, il est là.
Ça va?
Ça va, mon Geoffrey, ça va. Bah, tu sais, hein, on se remet petit à petit. T'as amené sur une bonne note.
Ouais.
Donc,
Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon,
comment tu te sens, toi, justement? Toi, c'est, bah, ça fait deux compètes. Enfin, non, pas deux compètes, pardon, trois compètes et trois médailles. Bah, t'as quel sentiment t'as sur cette médaille de bronze?
Ben, sur cette médaille de bronze, bon, bien sûr, je suis un peu déçu aussi de pas avoir réussi à gagner cette médaille d'or. Voilà, après, on a fini sur une victoire. Donc bon, ça atténue un petit peu la douleur que j'ai pu ressentir quand on a perdu contre l'Espagne. Ouais.
Et un petit justement le match contre la Serbie, c'est toujours un match spécial pour toi de jouer contre les Serbes. Ouais. T'étais quand même content de gagner ce match-là.
Ouais, bien sûr, j'étais très content, bien sûr. Oui, le fait que ça soit les Serbes, c'était un petit plus, mais c'était surtout important d'avoir une médaille. Et puis de pas finir à la place du con, quoi, voilà. Hein. Donc,
Ça c'est sûr. Il y a beaucoup de fans qui nous posent des questions sur le TQO et les joueurs NBA. Est-ce que vous êtes là? On a eu Rudy, on a eu Nico. Ils nous disent qu'ils étaient tous motivés. Toi, par rapport à ta motivation pour le TQO, elle est intacte?
Ouais, bien sûr. Puis bon, moi, il y a très peu de chances que je fasse les playoffs, donc voilà, j'aurai le temps.
Tu seras en forme pour le TQO.
Geoffrey, d'abord bravo, parce que t'as montré plein de choses. Comme je disais l'autre jour, t'es un buffle qui a des mains de dentelière, donc c'est original. Mais pour revenir à ce que te disait Tony, tu leur as parlé aux Serbes, parce que je te vois jurer en serbe quand je suis au bord du terrain, et je le vois, et il y a des référents hein, dans l'insulte, enfin dans le juron serbe.
Il a joué à Belgrade, hein.
Il a joué à Belgrade deux saisons. Tu leur parlais un peu sur le terrain? En serbe?
Non, sur le terrain, je parle pas, je fais souffler.
Il y a le protège-dents. Il y a le protège-dents.
Ouais, en plus, non, mais, après, c'est moi, la Serbie, j'ai toujours dit que ça avait été une super expérience. Voilà, et puis, le basket, j'ai pas mal de références. Voilà, par rapport à ce que j'ai pu vivre là-bas, ouais.
Geoffrey Lorraine dans le
Tibichot. Justement, j'avais une question par rapport à l'Euro, ta famille, ils l'ont vécu comment? Parce que ton père, il était international, c'était pas mal d'émotions aussi pour toi de jouer un Euro à domicile devant la famille?
Oui, bien sûr, c'était un plus. Voilà, j'essaie de mettre pas mal de distance justement entre si tu veux le basket et tout cet aspect un petit peu le fait que ça soit en France, ta famille, tout ça. Voilà, histoire de pas avoir trop de pression, pas se mettre trop de pression inutile et de jouer le mieux possible. Voilà, mais c'est sûr que maintenant que c'est fini avec du recul, le fait que ça soit en France et ouais, c'était quelque chose de peut-être plus important pour moi. Ouais.
Geoffrey, Jacques, Tipeee, Evan Fournier est également avec nous dans le Tipeee Show sur RMC.
Bonsoir.
Salut Evan.
Bon, Evan, Geoffrey nous a carrément annoncé qu'il serait en forme pour le TQO parce qu'il fera pas les playoffs. Toi, t'en penses quoi avec Orlando?
Ouais, j'espère être un peu plus fatigué.
Mais voilà, on a eu beaucoup de questions, quoi, des fans. On a eu Rudy à l'antenne, on a eu Nico. Geoffrey nous a confirmé qu'il était motivé. Donc, je pense que toi aussi, t'es motivé pour le TQO et les JO, quoi.
Bah, tu le sais très bien, ouais. C'est clair, hein. C'est même pas une question. C'est clair et net.
C'est parti. Comment tu t'es préparé justement pour le match de la Serbie? Parce que je sais, contre l'Espagne, on était tous frustrés. Et la Serbie, t'as vraiment fait un gros match. Tu nous as donné un gros boost. Comment tu t'es préparé pour ce match-là?
Je me suis pas préparé, en fait. La veille, j'ai pas dormi. Franchement, j'ai vraiment eu du mal à passer à autre chose sur ce match-là. J'étais vraiment très, très en colère, frustré. Et j'ai traîné ça longtemps et donc voilà, je pense que c'est juste fallait que ça sorte, quoi, c'est tout, hein.
Mais c'est bien sorti, hein, contre la Serbie. Bravo Evan, parce que c'est vrai, Tony l'a dit, t'as amené quelque chose. En plus, tu rates le premier shoot et après tu te récupères sur des pénétrations, tu te récupères sur des shoots externes, t'as fait vraiment un gros taf. Quand ils trichent sous l'écran, tu les sanctionnes. Très bien, bravo.
Merci. Merci.
Tiens, Geoffrey, parce que tu plaisantais sur le niveau entre guillemets de Denver. Non, mais je reviens à Geoffrey. J'ai un peu la même question pour Evan, parce que c'est vrai que on les voit pas trop jouer nous en France, vu qu'ils sont en NBA. Est-ce que tu crains pas aussi un peu pour ton temps de jeu quand même à Denver, Geoffrey? Est-ce que tu as eu des discussions déjà avec le coach? Qu'en est-il de ce point de vue-là?
On va dire c'est Mike Malone, le nouveau coach.
Oui, ben je suis censé avoir un rôle plus important que la saison dernière. Voilà, après c'est un petit peu compliqué de trop se projeter. Il y a beaucoup d'intérieurs dans l'équipe. On est 8 à jouer poste 4 ou 5, donc bon, ça fait pas mal de monde. Voilà, alors après entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a toujours des différences, et c'est normal, c'est le sport de haut niveau. Mais voilà, moi ils m'ont dit que je devais avoir un rôle beaucoup plus important que la saison dernière et que j'allais jouer, vraiment jouer, donc on verra.
C'est bon signe, c'est plutôt bon signe en tout cas d'entendre ce discours là les gars, merci beaucoup.
Juste un petit truc, c'est que ils ont tous les deux nouveaux coachs, Evan et Joe, donc
Evan il va bien morfler avec Scott Skies, ouais. Bonne chance au training camp, Evan.
A priori, ouais.
Il va bien morfler.
Et t'as dit, toi, tu vas retrouver un vieux collègue qui vient de revenir aux Spurs, c'est Jacques Vogel, qui revient chez vous comme assistant.
Ouais. C'est clair, c'est bien. Jacques, il est bien. On récupère Jacques aussi JB. Ouais, il revient. Ouais, les deux, Jacques et JB. Donc c'est bien. Ça va être bien pour le staff.
Evan, Geoffrey, merci encore. Tipeee, merci aussi, parce qu'on se régale toujours avec l'équipe de France.
À bientôt.
À la semaine prochaine. Tipeee, c'est reparti pour une saison de Tipeee Show. Et tout de suite, on va retrouver Gilbert Bribois. C'est l'after.
Ça va, merci les gars. À bientôt.
Ciao, Tipeee.
L'after est là jusqu'à minuit, en effet, avec évidemment un retour sur ce qui s'est passé hier soir au Vélodrome entre Marseille et Lyon. Vincent Labrune était dans Louis Attac tout à l'heure, tout comme Mathieu Valbuena. On parlera également de Saint-Etienne et Rennes sur le podium. Daniel Ariolo pense qu'il vont rester en haut du classement un petit moment. Êtes-vous d'accord? On vous attend au 32-16 pour débattre. Et puis il y aura les drôles de l'âme comme tous les lundis. À tout de suite. Et la Ligue 2, bien sûr. Jean Baumel est là pour Valenciennes-Lens.
Ah, ça, Jacques,
toi tu t'en fous de Valenciennes-Lens, mais nous, dans l'after, pour nous, c'est crucial.
Il aime bien le Nord maintenant, Jacques.
Voilà, j'aime bien Gibon, surtout.
Merci, Jacques. Il reste 20 minutes, 1-0 pour le Racing Club de Lens. But de Chavarria, 23e. Lens va-t-il gagner son premier match de la saison au bout de 8 journées? Réponse tout à l'heure.
Allez, à tout de suite dans l'after.